Si demain j'ai envie de me lancer dans la prod, qu'est-ce que tu me dirais? Qu'est-ce que tu me conseillerais
de pas le faire. Non, je te jure. Déjà, mes grands frères, ils étaient complètement ouf de toute la vibe West Coast, Death Row, Tupac. Niveau musical, j'allais beaucoup à l'église avec mes parents. Du coup, j'ai toujours baigné dans cette atmosphère colorée, musicale et très ambiancée. C'était une expérience en soi-même, le Nigeria. Genre, c'était une vraie expérience musicale pour moi. Il y avait en des plus, London, des Lauda, Ozedikos, des André Vibes qui étaient là. Ils arrivaient. Ils mettaient des prods, tu sais, même comment ils font leur percu, etc. et tout, ça sonne tellement organique, ça sonne tellement genre c'est deep, tu vois.
C'est IDF Ways de Stavo.
C'est un morceau qui s'est fait en plein jour.
Ok.
Ouais.
Donc quoi.
Parfois, en fait, parfois les gens se disent ouais, moi je pose que la nuit.
3h du matin et tout, ouais.
J'attends qu'un tel me parle, j'attends. Arrêtez les gars, vous êtes fatigués, vous avez beaucoup bu, vous finissez même pas les sons. Quand tu te lances dans la musique business, enfin le business de la musique, il faut avoir conscience des besoins des gens et des problématiques qu'ils peuvent avoir et savoir ce que toi aussi tu peux apporter sur la table, tu vois. Je suis un gars curieux, découvrir, toujours apprendre plus de choses. Et la paix aussi, surtout.
On est sur De La Musicopolis, mais vous savez déjà...
De La Musicopolis.
Dans le monde 2, votre podcast 100% dédié au beatmaking et au DJing. Toujours Chris DLM4 pour vous accompagner. Épaulé par mes gars sûrs, JD Host et Duponcel. On se retrouve pour un nouvel épisode. Avant tout, comme d'habitude, on tient à vous remercier pour les différents retours, les partages du dernier épisode. La coutume ne change pas. N'hésitez pas à liker, aimer, partager, lâcher 5 étoiles sur Spotify Podcast. Ça nous fait énormément plaisir et ça nous donne beaucoup de force, évidemment. Nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit un beatmaker. Aujourd'hui, on reçoit un poids lourd du beatmaking francophone. Un CV qui fait peur sur le territoire français, mais aussi à l'international. Dossé, Booba, Lacrim, Nino, Ateyaba, Kid Cudi, Stavo, ISK, Zola, PLK, Vald, SCH, Gradure, Sam, Dribo, Bébé Jacques, Lorenzo, Desporucci. Bref, la liste est longue. DST avec nous, DST dans la maison, comment ça va?
Super, et toi?
Ah bah super bien, ravi de te recevoir.
Merci pour l'invitation.
Déjà pour débuter, on a pu voir en off, tu nous as dit que ça changeait pas au niveau de l'actu. Comment ça va actuellement? Nouvelle année.
Nouvelle année, mais...
Le quotidien.
Le quotidien toujours le même.
Charbon, charbon, charbon.
Ouais, ce qui change, c'est les chiffres, c'est le numéraire.
Ok, très bien, très bien. On a pas mal de choses sur lesquelles échanger, mais avant, c'est important de resituer pour certains et certaines. Le commencement pour toi, si je dis pas de bêtises, au niveau de la prod, c'est outre-Atlantique, c'est au niveau du Canada, c'est ça?
Exactement. Au niveau du Canada, pour refaire rapidement l'histoire, j'étais en vacances et mes cousins n'étaient pas là. Ils étaient en mode sport-études, j'étais seul à la baraque. Et j'avais toujours entendu parler de ce logiciel FS Studio que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis dit, pourquoi pas tester vu que j'ai du temps à tuer.
C'est l'occasion.
Et c'est là que tout a commencé. Au début, j'étais un peu claqué. Je m'amusais à refaire des prods que je voyais sur Internet à base de tutos, etc. Et une fois revenu en France, j'ai pas lâché. Et cette histoire m'a suivi jusqu'ici, quoi.
Et ça, on remonte à peu près à quelle année, du coup?
2011-2012.
Ok.
Par là.
Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok, cool. Avant ça, du coup, même avant le Canada, ton rapport avec la musique, il est comment approximativement? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui jouait d'un instrument ou juste t'étais déjà un bousillé de musique à cette époque?
Déjà, mes grands frères.
Ok.
Ils étaient complètement ouf de toute la vibe West Coast, Death Row, Tupac.
T'es West Coast aussi ou bien t'as balancé de l'autre côté?
Moi je suis West Coast à fond aussi.
On est pareil à ce niveau-là, je te dis. C'est là-bas que ça se passe.
Et aussi, niveau musical, j'allais beaucoup à l'église avec mes parents.
Ok.
Du coup, j'ai toujours baigné dans cette atmosphère très. Assez colorée, musicale et très ambiancée. En mode louange, etc. et tout. Du coup, c'est une vibe que j'ai toujours eue en moi. C'est un truc qui m'a toujours réconforté, avec lequel j'ai toujours été à l'aise. Et quand j'ai commencé à écouter de plus en plus de rap, etc., je sais pas, je savais pas que c'était possible, mais j'avais toujours eu envie d'enlever les paroles.
D'accord.
Des instrus, okay. Juste pour écouter les instrus, okay. Et voir ce que ça me procurait, tu vois.
Ok.
Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est créé quand j'étais petit. Mmh. Et ensuite, on a vu tout ce qui s'est passé, quoi.
Ah, ça, on a pu voir ça. Et derrière, à côté de ça, est-ce qu'il y a eu des producteurs dont la musique t'a parlé plus jeune? Là, on a parlé West Coast. Est-ce que déjà, il y avait... T'identifiais déjà les beatmakers, producteurs aussi?
Quand j'étais plus petit, pas du tout. C'est-à-dire, okay. Même Dr. Dre, je ne savais même pas que c'était un compo. Okay. Je ne savais même pas qu'il produisait. Mm-hmm. Je ne connaissais rien du tout. Juste, je me prenais les baffes.
Ouais.
C'est un peu plus tard, mm-hmm. quand j'ai eu un ordinateur et que ouais. J'ai eu Internet.
Justement pour les riprods, par exemple.
Exactement. Que j'ai commencé à diguer, à m'informer, etc. Et tout, tu vois. Donc, c'est un peu plus tard que j'ai... vraiment pris connaissance du métier de producteur et des différents noms qu'il y avait dans le game.
Ok, okay, très bien. Ce qu'on peut souligner depuis le début de ta carrière aussi, et jusqu'à maintenant, c'est que tu es un joueur d'équipe. On peut voir sur beaucoup de tes prods, que ce soit avec les gars de Sommetic, notamment la période PLK, C-Boy, Sha, il y avait pas mal de coprods. Mm-hmm. Et au cours des dernières années, avec Carmen, Vladimir Pariente, mm-hmm. Xma, côté. Et encore plus même récemment avec toute l'équipe Descendance, du coup, mm-hmm. Dont tu fais partie avec, du coup, Xma, Vladimir Pariente, Unfaze, Carmen et Mikuda. Comment la structure, du coup, voit le jour Descendance et c'est quoi l'objectif avec cette team?
L'objectif, à la base, c'est déjà de se structurer.
Okay.
Parce que faut savoir que dans la musique, il y a deux côtés. Il y a le côté purement musical qui se passe au studio, mais il y a aussi tout un côté administratif un peu chiant.
Ouais.
Chiant mais nécessaire, parce que sinon tu te fais pas payer, tu te fais pas, tu vis pas, tu vois. Et donc la première idée, c'est déjà d'encadrer le business de DST, tu vois, avec l'aide de Dany, que vous connaissez, et avec qui j'ai commencé toute cette aventure. Et par la suite, c'est aussi l'occasion de donner la chance à des créateurs qui ont du talent, mais qui sont ignorants dans un premier temps. Je vais prendre le cas, par exemple, de Dunphase, mm-hmm. Que j'ai connu quand il avait 16 ans. C'est-à-dire qu'à la base, il ne s'imaginait pas comment ça pouvait se passer dans le game, comment on pouvait placer une prod. Il ne s'imaginait pas qu'on pouvait aller en session avec des artistes, aller en séminaire, les côtoyer d'aussi près, comment ça se passait vraiment dans les coulisses.
Ouais.
Et pareil avec d'autres. Mais l'idée, c'est vraiment de donner une chance à une nouvelle génération ou à des créateurs de talent pour, pourquoi pas, faire un bout de chemin ensemble.
Ouais.
Et je peux parler aussi de Carmen. Lui, c'est différent. Ouais. Lui, c'est-à-dire que il a même commencé la musique avant moi, tu vois. Ouais. Mais mon expérience et la sienne se sont rencontrées à un moment où ses besoins et mes compétences allaient de pair. Mmh. Ce qui fait que on a décidé de s'allier, de
joindre les forces
et de essayer de faire passer un step à sa musique, tu vois. Donc en vrai, c'est plusieurs problématiques qui sont liées à plusieurs artistes, parce qu'il y en a qui veulent juste placer, il y en a qui veulent être je sais pas, juste top liner, il y en a qui veulent être top liner rappeur truc. C'est à dire que quand tu te lances dans la musique business, le business de la musique, il faut avoir conscience des besoins des gens et des problématiques qu'ils peuvent avoir et savoir ce que toi aussi tu peux apporter sur la table, tu vois.
Ok, okay, très bien, je comprends mieux tout l'écosystème du coup autour de SDC du coup.
Ouais.
Et à côté de ça, la collab en elle-même, toi, c'est un truc que vraiment tu kiffes, parce qu'on peut voir ça.
Ouais, parce que déjà, à la base, moi je suis quelqu'un qui joue pas du piano déjà. Et à l'époque, quand je faisais mes prods sur l'extérieur et tout, c'est en mode autodidacte, tu vois, sur le clavier de l'ordinateur ou avec un petit clavier 24 touches, en mode petite mélo, etc. et tout. Mais l'idée de travailler avec quelqu'un comme Vladimir ou Unfaze, qui sont eux des spécialistes du clavier, c'est de me faire découvrir d'autres sonorités auxquelles moi je ne peux pas toucher tout seul, tu vois.
Ouais.
Donc aujourd'hui, quand je travaille avec Vladimir, qui est un grand maître dans sa spécialité, il me surprend toujours, tu vois, dans sa force de proposition, dans ses couleurs, etc. Et tout. Et puis, comme on a fait une centaine de placements ensemble, ben, on a créé aussi quelque chose de très singulier qui, aujourd'hui, ben, participe au deux, troisième souffle de DST, tu vois. Mm-hmm. Et après, quand je me mélange à d'autres compositeurs, c'est pour aussi avoir d'autres couleurs, tu vois. C'est aussi ça, la force de la collab. Et aujourd'hui, ça passe beaucoup par ça, tu vois. Tu as parlé de Pelka tout à l'heure. C'est-à-dire que la couleur que j'ai, par exemple, avec un junior à la prod, c'est une couleur qui convenait typiquement à Pelka au moment où on l'a rencontré. C'est pour ça qu'on a fait de gros sons ensemble et des gros projets avec lui.
Justement, en parlant de collab, morceaux, tout ça, dans notre format, dans notre podcast, pardon, on a un format qui s'appelle Check les crédits, dans lequel on aime bien échanger justement sur les différents morceaux qu'on sélectionne pour savoir justement comment la connexion s'est faite, la prod ou plus. Pour toi, on en a sélectionné quelques-uns. Du coup, libre à toi de nous dire ce qui te chante justement par rapport à ces morceaux-là. Le premier morceau qu'on a choisi, c'est Bluebird de Bébé Jacques, dans lequel on te retrouve du coup avec Vladimir Parienté. Ce morceau, déjà juste le violon sur ce morceau, c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur soit la connexion avec Bébé Jacques?
Ce titre-là, enfin cette prod déjà, on l'a faite il y a genre un an et demi.
Ok.
À la base, on était dans une session où on produisait des boucles, parce que parfois on fait des sessions où on produit exclusivement des boucles.
D'accord.
Et on avait une petite rêve un peu orientale, méditerranéenne.
D'accord.
Qui nous faisait kiffer et on s'est dit pourquoi pas refaire quelque chose d'assez similaire. Et lors de cette session, l'émotion était tellement ouf. Genre, Vladimir était tellement inspiré que, en fait, la boucle en elle-même, elle avait déjà énormément de poids.
Ouais.
Du coup, moi, j'avais la pression de mettre des drums ou de produire encore plus le son parce qu'on trouvait que ça avait tellement de charme déjà comme ça que ben j'ai
besoin de faire quoi.
Non, c'est pas qu'il y avait rien besoin, c'est j'avais la pression.
Ok.
J'avais vraiment la... En fait,
qu'est-ce qu'on peut ajouter pour que c'est le même niveau que ce qu'il y a déjà
tu vois, et c'est là où toute la force de Vladimir aussi, tu vois, quand on est à ce niveau-là et quand on travaille avec une telle précision, ben la boucle en elle-même, elle avait tellement de puissance qu'elle était là, elle tournait dans mon téléphone, elle tournait dans ma caisse, elle tournait dans mon ordi. On se disait, putain, qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là, tu vois. Et c'est là qu'on rencontre Bébé Jacques en fin d'année dernière, je crois, ou milieu d'année.
Toi, du coup, tu avais déjà un petit peu suivi par rapport
à l'épisode Netflix qu'il faisait,
ou même sur Netflix.
Ouais,
ou...
moi, j'avais suivi l'épisode Netflix.
D'accord.
Et ensuite, quand
ça t'a parlé.
Ouais, bah, c'était un des gars qui avait le plus de charisme, quand même, tu vois. Et du coup, son nom m'a interpellé et j'étais allé checker un petit peu ce qu'il faisait. Et du coup, ben, on est intervenu sur une session pour son album. Et il nous disait tout de suite qu'il avait un délire très cinématographique, etc. et tout, très scénarisé et tout. Et c'est pour ça que tout de suite, j'ai eu l'idée de mettre ça. Ça doit être un des premiers sons que j'ai mis.
Okay.
Genre, je me suis dit, écoute...
Un truc
je sens que y a quelque chose qui peut être chaud, donc j'ai mis ça genre en première ou deuxième intention. Le gars, il a dit non, après j'ai fait écouter d'autres trucs hein.
Il a dit moi je veux ça,
remets le truc là. Remets le truc là. Après, il est parti en couille.
Comme d'hab, comme il fait souvent one take du coup.
Exactement. Okay. Et durant cette session, on a fait genre 3 sons je crois. Mais c'est celui-là qui est resté, tu vois.
Ok, très bien, très bien. Très, très lourd comme morceau, en tout cas.
Merci beaucoup.
Deuxième morceau qu'on a choisi, c'est Lové, Dribo, avec Guy de Besbar.
C'est marrant que tu
parles
de...
Vibe de ouf, ce son-là.
qu'est-ce que je peux te dire sur ce son? Bah, d'ailleurs, cette prod-là, bah, avec Vladimir, c'est... une des prods préférées de mon meilleur ami, il s'appelle Mitch. À chaque fois, il me parle de
Mitch,
cette
prod. Si tu nous écoutes ou tu nous regardes, on est totalement corda. Bah, pareil, c'est un de mes meilleurs amis qui m'a envoyé le son. J'écoutais tout le projet de Dribo derrière, à côté. Pas trop la finesse, très très fort.
Dribo, c'est un gars avec qui, en fait, on s'envoyait un peu de force sur les réseaux depuis peut-être un an, tu vois.
Ok.
Et moi, j'étais dans mes vitesses, j'étais dans mes trucs. Ouais. On se disait de loin qu'on devait se capter, tu vois. ça avait jamais pu se faire. Et ces temps-ci, j'étais beaucoup avec Guy, à qui je passe le salam. Et Dribo, il me dit, bah vas-y, là, je dois faire un son avec Guy.
Ok. Donc, alignement des étoiles.
Ouais, est-ce que t'es là? Est-ce que t'es truc? Est-ce que t'es chaud? Et je me suis dit, bah vas-y. Et ça, en fait, cette prod-là, c'était... Elle faisait partie d'un pack que j'avais préparé pour ce type d'occasion, tu vois.
Okay.
Ce type de
rencontre,
ce type de session, ce type de couleur que Guy peut avoir, tu vois. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas leur filer ce truc-là. Et pareil, première ou deuxième intention. Et Guy, il arrive un peu après, et quand il fait sa top line-là, c'est bon, on dit, vas-y, c'est...
Voilà. Il s'est baladé sur le morceau, franchement.
On a passé tellement de temps à écouter le son au studio que le jour même, on l'a même pas fini, ou je sais plus, je me rappelle plus, mais on l'a tellement écouté que... Mais c'est un bon son.
Ah, très, très.
Après,
bon,
dommage
son.
Qu'ils ont pas pu clipper ou quoi, mais...
Ouais, j'avoue.
C'est un son cool. Puis même au niveau de la prod, enfin... Moi-même, je sais pas si c'est de la drill, je sais pas si c'est de la trap ou
ça
pas.
Ça va pas définir, quoi.
Non, parce que en fait, j'ai essayé de créer un truc un peu hybride entre la trap et la drill, parce que moi, je reste un gars de la trap, tu vois. Genre,
on a vu ça avec le dossier.
Bah, c'est marrant aussi que tu parles de ça, parce que tu vois sur RS28, il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi ça, en fait, tu vois, genre même la rythmique.
Ouais.
C'est pas trop ce que c'est. C'est-à-dire que tu penses que c'est de la drill, tu penses que c'est de la trap.
Mais t'avais mis une story justement dès que le son est sorti en mode en disant ouais, y a rien de mieux que la bonne vieille trap ou un truc de ce style-là.
Ouais, exactement. Donc, en mode, en fait, c'est.
Parce qu'au final, là, ces dernières années, on t'a pas vu même sur une prod drill, au final. Donc, c'était pas un truc qui te parlait.
Sur une prod drill, j'en ai fait une pour Nahir.
Ah ouais. Avec comment il s'appelle, Dissoivé, non, je crois.
Ouais, sur Intégrale 1. Et après, j'en ai fait une ou deux qui traînent dans mon téléphone qui sont pas sorties.
Okay.
Après, j'aime bien en faire. Hein. Mm-hmm. Mais ouais, moi, je reste un gars de la trappe, tu vois. Mais voilà, sur ces quelques prods-là, j'essaie de créer un truc un peu hybride, tu vois, pour pas tomber dans la facilité.
Ouais. Ouais, juste petit aparté du coup sur le dossier, la phase où il dit ouais, tant que tu gardes le talon, elle est chartelle, c'est l'essentiel. De faire rebondir la prod.
La prod a été déjà comme ça.
Ok.
Donc.
Après, dossier, vu qu'il a sa casquette de beatmaker aussi.
Ouais, très très chaud, ouais.
Ok.
Exactement.
Autre morceau qu'on a choisi, c'est IDF Ways de Stavo.
Ouais.
Avec du coup Vladimir aussi.
Vladimir,
également.
Toujours. Ouais.
Il y a le OG Johnson aussi, mais
ouais.
On pourra parler tellement de morceaux, mais en l'occurrence celui-là, en plus, il a été clippé aussi.
Ouais, mais les gens, ils ont beaucoup aimé ce son.
OG Johnson ou IDF?
IDF, oui.
Ouais, bah, à mon avis, c'est une des raisons peut-être aussi qui a poussé à le clipper, mais
genre,
ouais.
Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Mais le
beaucoup,
truc, c'est qu'en beaucoup, plus, beaucoup. Toutes les faces qu'il amène entre les trucs par rapport à chaque particularité des départements et tout, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui ont pu s'identifier, je pense.
Ouais.
Vous attendiez à ce que ce soit plus celui-là qui fonctionne? Ou bien OG Johnson?
Après, un terme fonctionne ou pas fonctionne, je sais pas. Mais okay. Du fait que... Enfin, c'est un morceau qui est assez fédérateur, tu vois. Fédérateur dans la street, tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il passe un salam et un gros big up à
c'est ça,
tous ces gars de ouais. chaque département, ouais, ça, avec leurs spécificités, etc.
Exactement.
Et du coup, aussi depuis ces dernières années... Il n'y a pas eu de. Tu sais, ça, c'est des anciens formats un peu.
Ouais.
En mode big up à méga de
ouais,
là, big
ça,
up à méga
ça,
de là, tu vois. Donc...
Et derrière, dès qu'il y a un morceau comme ça qui sort, les gens disent il n'a pas big up
voilà.
au département. Autre,
ils se reconnaissent, tu vois.
C'est ça.
Donc, je pense que c'est un côté qui a. Même si c'est assez sombre, ça a réconforté un peu un certain OG.
C'est ça.
Tu vois. Et bah, du coup, c'est à cette session-là que j'ai croisé Riz,
okay.
qui était là juste avant.
Mm-hmm.
Et c'est un morceau qui s'est fait en plein jour.
Ok.
Ouais.
Comme quoi.
Parfois, en fait, parfois les gens se disent « Ouais, moi, je pose que la nuit. »
3h du matin et tout, ouais.
J'attends qu'un tel me parle, j'attends. Arrêtez les gars, vous êtes fatigués, vous avez beaucoup bu, vous finissez même pas les sons.
Ouais.
Alors qu'en pleine journée, parce qu'en soi, on est des êtres humains, tu vois, même si on est des artistes, etc. et tout.
Mm-hmm.
Genre l'être humain est fait pour être productif, efficace et super clairvoyant en pleine journée. Quoi.
Ouais.
Donc, quand tu... c'est pas pour rien que les gens travaillent de 8h à 17h ou peu importe. Tu vois. Donc, le son s'est fait en plein après-midi, à 15h. Ouais, il n'y avait pas du tout les lumières éteintes.
Ouais. Okay, non.
Du coup, il avait vraiment l'esprit clair et il n'a pas mis longtemps à appliquer tout ça. Quoi. Donc, okay.
très gros
morceau. Tout, quoi.
TVX, à aller écouter, à aller choper si vous ne l'avez pas encore fait. Autre morceau qu'on a choisi, ah, celui-là, je suis obligé d'en parler. Bouskasten, Zola.
Bouskasten, ça, c'est une de mes prods préférées.
On est d'accord, franchement, on est d'accord. Parce qu'en plus, je me dis, mais attends, ça, c'est juste en Bouskasten, c'est même pas sur le projet de Zola quand je l'ai écouté. Je me suis dit, mais c'est de la folie. Et même ce morceau, je me dis, ouais, où est-ce que t'es parti? Parti puiser l'inspi. On a vu qu'un MQTB, c'était Atlanta.
Ouais.
Là, quand j'ai entendu la prod, je me suis dit, mais où est-ce qu'il est parti chercher ça?
Alors, pour cette prod, c'est une demande en vrai. C'est une demande de Zola Senior, le grand frère de Zola. Ils avaient une ref Kenry qu'ils avaient kiffé. Et c'était assez particulier pour moi de faire ce son. Genre, j'ai mis énormément de temps à faire ce son.
Okay.
Genre, énormément. Je l'ai fait avec Vladimir et déjà il y a trois notes sur ce son, alors que Vladimir c'est un gars des grandes mélodies, etc. Du coup c'était compliqué de trouver les trois notes qu'il fallait. On a mis 2 heures à trouver les trois notes. Parce qu'il fallait que ça soit en fait il fallait respecter un certain sentiment, un certain bounce.
Ouais.
Et il y a aussi ce truc, tu vois, j'ai mis un espèce de bruitage dans ce son. Qui matrixe un peu l'esprit, je sais pas si tu vois ce dont je parle.
Celui qui fait le tang, ouais. Tang, tang,
ça fait,
tang.
Ça fait cool.
Ah, mais ça.
Voilà.
Bah justement, ça, on l'entend avant que je mette The Danger.
Tu vois ce truc-là, voilà.
Ce truc-là. On dirait un bruit de flaque d'eau, je sais pas comment le déchirer.
Là, par exemple, j'ai mis 2 heures à faire ce truc-là.
Ah ouais?
C'est un kick que j'ai découpé, que j'ai reverse, j'ai enlevé des fréquences.
Donc en gros, il n'y a personne qui peut aller choper quelque part.
Il est que sur mon ordi. C'est-à-dire que. Et parfois, j'utilise dans d'autres sons, de manière un peu hypnotique, mais c'est une prod, j'ai mis grave du temps à faire.
Ok.
Mais genre. Mais pour un résultat vraiment.
Unique.
Ouais, pour le coup, genre, c'est une couleur. Ben, super singulière.
Ah, mais de ouf.
Et même avec Vlad, on a kiffé genre, faire ce son, tu vois. C'est autre chose, tu vois. Et non, franchement, c'est... On est content. On est content de nous. Ouais.
Il s'est balade dessus. Et vraiment, en l'écoutant, tu te dis, mais pourquoi c'est pas sur l'album et tout, mais bon.
Ouais, bah ça devait être une exclue, mais au final, c'était un Bouskasten, mais c'est
sorti. Après, ça fait office d'exclu quand même. C'est comme aujourd'hui, quand tu vois maintenant les Colors,
il
y a de plus en plus d'exclus sur les Colors, donc ça fait son effet en tout
cas. Tant que c'est sorti, de toute façon.
C'est ça.
Tant que les sons sortent.
Bah, de ouf, parce qu'il y a tellement de désillusions pour d'autres morceaux que, Très bien. À côté de ça, j'ai pu voir l'année dernière, l'été, t'étais au Nigeria.
C'est en fin d'année 2021.
Ok. Ouais. Fin d'année 2020. Ouais, on est en 2023. Ouais. Excuse-moi, je suis encore dans le. Et t'étais en session avec Rema et Iseult. Je sais que Iseult, c'est un artiste dont t'es assez proche.
Ouais.
Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il va être sur le projet de Rema. Tout ça, c'était plus pour accompagner au niveau du morceau qu'ils ont fait ensemble ou...
C'était. Eux, ils s'étaient déjà connectés.
D'accord.
Via l'intermédiaire de London. Gros producteur nigérien que je salue, trop chaud.
Très 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 chaud.
Et il bossait déjà sur des trucs pour Rema.
Okay.
Et nous on était en séminaire pour Iseult.
D'accord.
Donc à ce moment-là, elle a capté énormément d'artistes comme Ayastar, Rema, etc. Et tout. Et on savait pas trop quand il allait venir, mais voilà, il est venu un dimanche matin et. Il a tué ça, comme d'habitude. Après, c'est un des artistes qui m'a le plus impressionné.
En enregistrant, en travaillant avec lui
visuellement, tu vois, genre en mode... c'est les mélodies qui sortent et tout, les intentions qu'il a, c'est...
Bah on l'a vu avec Doumébi, c'est des mots qui n'existent pas, il a inventé.
Exactement. C'est vraiment... c'était une expérience. En soi-même, le Nigeria, genre, c'était une vraie expérience musicale pour moi. Genre... En termes de voyage, il y a deux voyages qui m'ont vraiment marqué dans ma carrière. C'est mon voyage à Atlanta.
D'accord.
Qui m'a.
En fait, franchement, à partir du moment où tu as ramené MQTB.
En fait, ce voyage-là, c'est comme si c'est un voyage qui m'a. genre j'ai, après ce voyage-là, j'ai l'impression que j'étais moi-même. Genre, j'ai vraiment compris qui j'étais. Mmh. Genre, ce que j'aimais.
Que tu étais destiné pour la musique, quoi, en gros. Sans
non, pas ça,
mots.
Mais vraiment dans le style.
Ok.
Tu vois, genre, tu sais, il y a des fois, y a des gens qui disent, oui, moi, je vais faire tel tube, mais telle guitare, truc, truc un peu commercial et tout. Mais moi, je me suis rendu compte qu'en vrai, je m'en bats les couilles de ces trucs-là, tu vois. Genre, j'en ai. Il y a des fois, ça me fait kiffer, tu vois.
Ouais.
Mais moi, je suis vraiment un gars. Je suis un gars d'Atlanta. Genre, après ce voyage, j'étais totalement en osmose avec moi-même, tu vois. Mmh. Et j'ai l'impression même que j'étais plus fort.
T'as l'impression pendant un moment, t'étais déphasé en arrivant à Atlanta.
Ouais, c'était clair en fait. Mmh. Je me suis dit, putain, mais en fait, c'est ça. Tu okay. vois. C'est ça que j'aime, tu vois. Mmh, mmh. Et deuxième voyage qui m'a marqué, c'est mon voyage au Nigeria. Parce que déjà, moi, je suis pas un gars de l'afro, tu vois.
Ok. Ouais.
Et, mais je kiffe. Ouais. L'afro.
En fait, tu sais apprécier, mais c'est pas voilà. ce que tu composes, quoi.
Et là, j'étais comme un étudiant, comme si j'étais en stage. C'est-à-dire que il y avait en des plus, London, des Lauda, Ozedikos, des André Vibes qui étaient là. Ils arrivaient, ils mettaient des prods, des ouais. Tu sais même comment ils font leur percu, etc. Et tout, ça sonne tellement organique, ça sonne tellement genre c'est deep, tu vois. Mm-hmm. Et je me prenais que des baffes. Et ça m'a mis une claque. Genre vraiment, ça m'a
titillé, ça t'a donné envie de t'y mettre à l'afro ou...
En fait, ça m'a donné encore plus envie d'en écouter.
D'accord.
Genre, et de kiffer. Enfin, c'était. En fait, c'était plus genre un élan d'énergie.
Ouais.
Tu vois.
Ok, je comprends.
C'est, tu vois, quand, par exemple, quand tu vas au bled.
Ouais.
Et que tu te ressources, etc. Et tout. Et là, c'était vraiment...
La même vibe, la même énergie.
C'était une vibe de ouf, franchement. Et j'étais comme un petit là-bas, tu vois. J'étais comme un petit, tu vois. C'était pas forcément mon terrain, ouais. mais c'était super enrichissant, ouais. tu vois.
J'imagine, là, entre ceux que t'as mentionnés, tu rajoutes des kill pee vibes, des
ouais,
sars.
De ouf, c'est... exactement. Et puis là-bas, je suis sorti aussi, tu vois. Et je suis parti en club. Et les clubs, c'est tellement une vibe. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, quand tu sors ici, les gens... Ils dansent
beaucoup
pas
d'attitude,
trop, tu vois,
ça,
très
là-bas,
attitude,
c'est
snap. Là-bas, les gens, ils dansent, tu vois, ils dansent, c'est diabolique, c'est la folie, frérot, je te jure. Genre, Ama Piano, etc. Ah, et gars. Tout, nananana, les Vab Naija et tout, c'est vraiment l'afro dans toute sa splendeur, tu vois. Donc, c'est un voyage de ouf. Tu
une
vois.
Destination à faire, quoi, du coup, Nigeria, ouais. Lagos, tout.
Très dangereux, par contre.
Ah, ça.
Mais à faire, vraiment.
Ok, très bien, très bien, très bien. Cool, cool. À côté de ça, là, on a pu voir récemment qu'il y a des vidéos qui circulent du projet 100% Congo de Gradure.
Ouais.
Est-ce qu'on a le droit d'avoir des infos si t'es dedans ou...
Bah, pour tout dire, j'ai raté une session la semaine dernière.
Ok.
Parce qu'il y a eu un petit délire. Une session
temps,
qui était décalée et tout. Je devais faire un ou deux sons et j'ai pas pu.
D'accord, ok, très bien, très bien.
À peut-être suivre, que, à suivre, ouais, quoi. À suivre. Mais ouais, je suis dans les petits papiers.
Très bien, c'est lourd, c'est lourd. Et du coup, à côté de ça, là, on parle de Nigeria, t'as ouais. parlé d'Atlanta tout à l'heure.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des beatmakers, artistes, ces derniers temps-là, qui ont attiré ton attention ? Derniers jours, dernières semaines, derniers mois même ?
Ouais, Sony Rave.
Ok, Sony Rave, ouais.
Qui est un artiste qui est produit par Sectra.
Yeah. Sectra.
Ouais, et... il a sorti peut-être... il n'a même pas 10 sons.
Trois
sur
morceaux,
les...
là, je crois même pas.
Mais ouais, mais il y a deux morceaux. Je les écoute tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est
en
dingue.
En plus, il est bien accompagné. T'as dit Sectra, il y a des Temin Taken à côté, tout ça.
C'est,
donc,
c'est, franchement, ouais, Sony Rave, très, très belle découverte de ces derniers mois.
Ok, très bien. On note. Du coup, à côté de ça... T'as parlé justement des différentes destinations. C'est quoi les objectifs futurs plus de prod à l'étranger, peut-être
La prochaine destination, c'est le Canada.
D'accord.
Il y a Carmen qui est partie là au début de l'année.
Ok.
Qui est là-bas pour commencer son album.
Mm-hmm.
Donc là, on a bouclé son EP qui va sortir le mois prochain.
D'accord.
On a déjà eu un extrait qui est sorti, La Caprice, qui a été produit
Téléphone
par...
Caprice. Voilà. Shout out Unfaze, franchement.
Unfaze et Guapo.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc le EP est fini.
D'accord.
Après, il faut savoir qu'avec Carmen, on réalise tout ensemble.
Ouais.
Au niveau de ses projets, de ses feats, ses singles qui sortent
à droite, c'est l'équipe DSDC, quoi.
Ouais, c'est vraiment l'équipe.
C'est la famille. Où,
en fait, je suis comme son double artistique, tu vois. Okay. C'est-à-dire que parfois, en mix, il n'est même pas là, c'est moi qui vais, tu vois, genre...
Les yeux fermés.
La réal, extra, ouais, on se comprend, tu vois. C'est-à-dire là, il est parti pour commencer à bosser. Mmh. Et je vais le rejoindre le mois prochain.
D'accord. Okay.
Pour poursuivre le truc, tu vois, bien enclencher le début de l'album. Parce que c'est toujours les débuts qui sont compliqués.
D'accord.
Mais là, comme on a très bien bossé depuis maintenant plus de deux ans, on a réussi à trouver cette nouvelle couleur qu'il cherchait pour renouveler sa musique. Et, voilà, quoi.
Très bien. Canada côté Toronto, ouais. Ou Montréal? Montréal,
ouais.
Ok, très bien. Bah, un de ces gars sûrs aussi, c'est avec Classify, donc ouais. On espère voir des prods avec lui aussi. Hein. Donc,
yes.
C'est cool. Toujours dans cette même veine par rapport au voyage et tout ce que tu as pu dire depuis tout à l'heure, une question que j'ai par rapport à justement les différentes prods qui peuvent être faites. Comment tu fais pour t'imprégner d'une culture sans... Quand tu vas faire la riprod sans plagier?
Je fais pas de riprod.
Enfin bon. Peut-être j'ai mal posé ma question, mais comment, justement, quand tu vas travailler, quand tu vas analyser par exemple ce qui se passe au Nigeria, et derrière tu vas vouloir justement composer un morceau, comment justement trouver le juste milieu pour faire un truc qui transpire ton identité, quoi, plus?
Il faut que. Alors, quand j'ai envie de m'inspirer de quelque chose ou d'un mouvement, je passe beaucoup de temps à écouter ce mouvement, déjà. Genre, je vais passer des semaines à écouter, réécouter. Tu sais, parce que refaire une prod ou s'inspirer de quelqu'un, c'est... On peut penser que c'est facile. Mais techniquement parlant, c'est facile. Oui, tu fais une prod comme ça, tu fais des kicks comme ça. Mais après, moi, je parle plus au niveau du sentiment. Tu vois, genre, quand t'écoutes l'album de Drake, Honestly Nevermind, ouais. Où il y a des prods en two-step ou en jersey, etc. et tout, et il y a toute une vibe très un peu solaire, un peu jet-set,
yes.
Tu vois. Et bah, ça, c'est un album que j'ai écouté tout l'été, par exemple.
Okay.
Et j'ai quelques prods là dans mon ordi qui ont grave cette vibe.
Okay.
Mais je sais que j'ai passé au moins 3 mois à écouter l'album, tu vois.
Ouais.
Pour vraiment capter, tu vois, tout ce qu'il y a à capter.
Mmh.
Genre au niveau du sentiment, au niveau des structures, au niveau de bah, du son, pour vraiment que quand tu fais la prod, bah, t'es pas à repartir à écouter comment il a fait parce que t'es déjà imprégné du truc, tu vois.
Ok.
Donc, ouais, après, moi, j'aime pas trop faire des reprods ou partir de refs un peu trop spécifiques parce que, après, tu t'enfermes trop dans la ref.
Ouais.
Et c'est plus de la créa, tu vois.
Ouais. Ma question a porté plus vraiment vis-à-vis de, tu vois, par exemple, par certains moments, il y en a qui peuvent être taxés d'appropriation culturelle et trouver justement ce juste milieu de, ouais. Tu vas aller faire un voyage, tu vas kiffer une vibe dans telle partie du monde ou telle identité, tel genre musical. Comment derrière bien retranscrire ça sans, ouais. Tu vois, que ce soit mal fait, quoi.
J'ai capté.
Du coup, ça va faire plus de 10 ans que tu fais des prods.
Ouais, ça fait 10 ans, ouais.
Quel conseil tu donnerais du coup aux beatmakers qui débutent ou qui voudraient s'inscrire sur la durée comme toi? Tout à l'heure, tu parlais de second, troisième souffle, avec justement la structure,
ouais.
Pour justement se renouveler et perdurer dans le temps. Du coup, si demain j'ai envie de me lancer dans la prod, qu'est-ce que tu me dirais?
Je te conseillerais de pas le faire. Non, je te jure, parce qu'il y a trop de compos là, frérot, c'est n'importe quoi.
Ouais. Tu vois, genre, on a fait une interview avec le collectif Le Blaze la saison précédente et ils nous ont dit ouais, y a plus de compos que de rappeurs.
Ouais, non, franchement, c'est pas une bonne période pour se lancer dans ça.
Ok.
Je sais pas si je parle comme un ancien ou si je parle comme je sais pas quoi. Mais après, si c'est vraiment. En fait, il faut que ça soit un kiff déjà. C'est-à-dire que si c'est un kiff, tu le feras que je te le dise ou non. Et si tu le fais. Après, c'est aussi facile de dire oui, trouver sa patte, etc. Et tout, parce que je sais même pas. En fait, il faut juste faire. En fait, parce que le plus dur, c'est de faire des choses, les entreprendre et les mener à bien, tu vois. Peu importe que t'aies ta patte ou non, que tu sois connu ou non. En fait, faut faire les choses. Tu vois, genre, c'est tellement dur aujourd'hui de vivre de sa passion. Mais la plupart des gens qui sont dans la musique, que ça réussisse ou non, ils sont toujours là. Genre, ils essayent toujours. C'est-à-dire que ça soit dans le rap ou... Je regarde des gars comme Guy, la détermination, il est jeune.
Ouais, de ouf.
Mais celui-ci, ça fait 10 ans qu'il fait du son, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, la détermination de quelqu'un...
Mais il suffit de comparer sa trajectoire entre ses premiers feats avec Niska et la longévité de Niska et voir comment lui, il a fait son comeback.
Exactement.
Pour justement voir l'évolution d'un artiste, quoi.
Pour voir que
les hauts et les bas.
Pour voir que c'est dur, déjà. C'est-à-dire que Guy, là, c'est pas un nouveau Guy, entre guillemets. C'est un Guy 2023, mais ça reste Guy, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, quand t'écoutes Allo, c'est terrible.
Ouais.
Tu, quand t'écoutes Niska, c'est déjà Niska.
Ouais.
Et quand t'écoutes Guy, c'est déjà Guy.
Ouais.
Après, il a encore progressé, etc. et tout, maintenant, avec les prods, les moyens, etc. et tout, il est devenu encore plus fort.
Ouais.
Mais ça reste Guy, tu vois.
Ouais.
Et pourquoi ça n'a pas pris avant? Pourquoi Niska, il est passé devant tout le monde? Pourquoi ceci? Pourquoi cela?
Il y a tellement d'autres facteurs, c'est ça.
Ouais, tu peux toujours expliquer des défaites, mais des réussites, tu ne sais pas, frérot.
Non, c'est pour ça.
Tu ne peux pas savoir.
On appelle quelqu'un pour lui dire « Ouais, je veux un hit ». Personne ne connaît la formule magique.
Tu ne sais pas. Du coup, en vrai, quel conseil je peux te donner? En fait, c'est faire et continuer à faire, tu vois.
C'est ce que la mayonnaise prenne, quoi.
Ouais, exactement. Après, si tu veux que la mayonnaise prenne, oui, mais si t'aimes, tu fais, c'est tout. Et la suite, c'est même pas dans tes mains, tu vois.
Ok, très bien, très bien. Des très beaux conseils, c'est noté en tout cas. On arrive près de la fin, DST. On peut te retrouver sur Instagram, Twitter, Genius pour découvrir la montagne de crédit. Pas de TikTok dans les tuyaux pour 2023.
Si, j'ai un TikTok secret là.
Ok. Histoire de voir les vibes, se marrer, tout ça, voir ce qui se passe, quoi. Mais pas à titre compo, quoi. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, déjà, à l'heure où on enregistre, en tout cas, un bon voyage pour un bon séjour au Canada.
Ouais.
Et 2023, dans l'ensemble.
Bah, toujours des découvertes. Moi, je suis un gars curieux. Découvrir, toujours apprendre plus de choses. Et la paix aussi, surtout.
Très important. Paix, amour. Ce sont les mots clés, les mots importants. Très bien, très bien. Avant de te libérer, DST, la tradition, c'est de la musicopolis, c'est de ne jamais laisser ce siège vide. Du coup, dernière question, si tu devais choisir un beatmaker ou DJ que tu connais personnellement, qui prendrait ta place devant ce micro, qui ce serait?
Pourquoi pas Lucky?
Lucky Cusco.
Ouais, Lucky qui me fait danser tous les mardis à The Flower. Donc, et en compo, pourquoi pas, je sais pas, Kozei, que j'aime bien.
Ok, très bien, très bien. Très bien.
Du bon.
On parlait de Sextra tout à l'heure. Kozei, Sextra, ce qu'ils avaient fait pour Guy de Besbar, là, c'était très, très sale.
Yes.
Très bien, écoute, on note. Un grand merci à toi d'être passé sur le podcast.
Merci à vous.
Je souhaite le meilleur pour la suite, comme on a dit en off, comme on a dit, tout bêtement. C'était Dans le Monde 2, votre podcast 100% dédié au beatmaking, au DJing avec DST. Un grand merci à celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'à présent. Un grand shout-out à JD Host et Duponcel qui m'accompagnent comme d'habitude. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode avec un compo ou un DJ. D'ici là, prenez soin de vous. Peace!